Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Jouffroy.
Le premier parlement italien réuni à Turin proclame en 1861 Victor Emmanuel II roi d'Italie. Cependant, l'unité territoriale de la péninsule n'est pas achevée. Quant à l'unification politique, sociale, économique, culturelle, mentale même du pays, ça c'est encore une autre affaire. L'année 2011 a fêté le 150e de l'unité italienne, en Italie bien sûr, et en France aussi. En France, entre autres, le cycle de la commémoration a été ouvert en avant-première en septembre 2010. Donc c'était vraiment en avant-première, par l'inauguration du colloque sur Cavour, organisé à l'École normale supérieure en collaboration avec l'Institut culturel italien et l'Institut de France. Et à cette occasion, le président de la République italienne, Giorgio Napolitano, était venu à l'Institut de France et à l'École normale supérieure. Cet automne 2011, c'est au musée de l'armée qu'il y a eu de nouveau une commémoration avec l'exposition Napoléon III et l'Italie, naissance d'une nation 1848-1870. Et nous avons avec nous Gilles Pécou, président français du comité scientifique de cette exposition du musée de l'armée, historien de l'Italie contemporaine, professeur des universités, directeur du département Histoire à l'École normale supérieure et directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Gilles Pécou, bonjour.
Bonjour.
Merci de votre venue dans notre studio. Dans votre livre qui s'appelle « Naissance de l'Italie contemporaine 1770-1922 » et qui va être réédité chez Armand Collin, vous commencez l'introduction « Une Italie qui ne va pas de soi ». Et puis aussi, l'Italie est faite, il reste à faire les Italiens. Tout ça nous entraîne à vous demander, mais quels sont les facteurs de la construction nationale depuis le 18e et quelles sont les étapes du réveil des nationalités? Et puis, qu'est-ce que le Risorgimento? Quelle est la chronologie et quels sont les liens entre la vision française du Risorgimento?
Eh bien, voilà un vaste programme qui me conduit à évoquer pratiquement un siècle d'histoire de la péninsule italienne et en quelque sorte aussi un siècle d'histoire de l'Europe et des relations franco-italiennes. De l'histoire italienne d'abord, puisque c'est tout de même notre objet aujourd'hui. Ce que l'on appelle le Risorgimento, signifie le réveil national de l'Italie. Alors pourquoi l'Italie a-t-elle besoin de se réveiller? Eh bien parce que, fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, l'Italie existe comme nation culturelle, historique, mais elle n'existe pas comme État-nation. La péninsule est divisée en une multitude d'États et la péninsule est en même temps l'objet d'une domination étrangère. Les Autrichiens, pour ne parler que d'eux, possèdent toute la région de la Lombardie et de la Vénétie. Donc ce que l'on appelle le Risorgimento comme réveil national, c'est le vaste, important, presque spectaculaire, processus d'adéquation entre une nation et un État, donc processus de construction d'un État italien unifié et surtout indépendant. Les vecteurs, vous me disiez, qu'est-ce qui a fait que finalement cette Italie s'éveille et se construit? Eh bien d'abord, comme pour toutes les nationalités au XIXe siècle, que d'ailleurs vous évoquiez dans votre question, comme pour toutes les nationalités du XIXe siècle, il faut d'abord un vrai mouvement d'éveil intellectuel et culturel. Ce sont donc les élites qui sont d'abord concernées. Il faut que des gens qui savent lire, écrire, qui appartiennent aux hautes classes, considèrent que le sort politique de leur patrie leur appartient, qu'il faut le défendre, qu'il faut libérer leur pays de l'étranger et qu'il faut construire un État unifié.
Est-ce que la présence française à l'époque de Bonaparte n'a pas été un des ciments de ce mouvement?
Elle a été un ciment par excès et par défaut. D'abord parce que pour ces élites, justement, la présence française, à l'époque d'abord jacobine, donc de la fin du directoire, et puis à l'époque napoléonienne, la présence française a signifié l'importation en Italie, en terre italienne, de tout un ensemble de pratiques politiques nouvelles et de vocabulaire, de lexique nouveau. C'est-à-dire, on a parlé de nation, on a parlé de liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, d'émancipation des anciens régimes. Mais en même temps, on a fait le contraire. On a fait le contraire aussi. C'est-à-dire qu'on a dominé la péninsule dans sa quasi-intégralité. Mais en dominant la péninsule, l'ordre français, notamment napoléonien, a aussi imposé des structures de rationalisation administrative, politique, qui ont aidé ensuite les Italiens à bâtir leur État. Donc, on a pris les Italiens, les élites italiennes, puisque nous en étions toujours à parler des élites. Les élites italiennes ont pris des Français de l'ordre de domination française, français, un certain nombre d'éléments qui pouvaient aider le pays à s'élever, à se réveiller, à se reconstruire, mais en même temps, les élites italiennes ont bâti aussi tout un discours national contre les Français comme étrangers. C'est pourquoi je dis, voilà un rôle ambigu, ambivalent de la présence française. Il reste que jusqu'à nos jours, une partie des historiens italiens considèrent que le début du Risorgimento, et cela va nous conduire à évoquer ces étapes, que le début du Risorgimento est justement marqué par l'arrivée des Français, des troupes françaises dans la péninsule. C'est le début de la Chartreuse de Parme, bien connue par ailleurs.
En 1815, c'est l'Europe de Metternich, c'est l'Italie de Metternich. Donc on passe de nouveau, malgré les aspirations au Risorgimento, à une organisation légitimiste des dynasties traditionnelles, patrimoniales.
Oui, tout à fait. En 1815, après la période française, qui avait, même de façon contradictoire, mis comme valeur dominante la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et la fin des anciens régimes, en 1815, contre cet ordre-là, on rétablit un ordre dynastique, ce sont les princes et les dynasties d'anciens régimes qui doivent régir l'organisation territoriale et géopolitique de la péninsule. Ça veut dire quoi cela ? Ça veut dire que l'Italie est divisée en plusieurs ensembles géopolitiques. D'abord, un ensemble de 1815 jusqu'en 1860, l'Italie est faite. D'abord, d'un ensemble tout de même d'États indépendants. Il ne faut pas les oublier. Toute l'Italie n'est pas asservie. Ces États indépendants sont trois grands ensembles. D'abord, du nord au sud, le royaume de Piémont-Sardaigne, dont la capitale est Turin, qu'on appelle aussi le royaume de Savoie. Puis, le deuxième grand ensemble, tout au sud, c'est le royaume des Deux Siciles, royaume des Bourbons, dont la capitale est Naples, qui est le plus peuplé des États indépendants. On a souvent l'habitude de considérer que l'État de Naples, c'est un État soumis, ce n'est pas... Mais non, c'est un vrai État indépendant d'ancien régime, très arriéré, très absolutiste, mais c'est un État indépendant. Et enfin, au milieu de la péninsule, il y a un autre ensemble géopolitique qui est l'État de l'Église, ou comme l'on dit en français plus souvent, les États de l'Église, qui est aussi un État indépendant.
Et qui va être la grande entrave qui pour va... l'unification, ou l'unité, pardon.
Oui.
Il faudra attendre 1870.
Oui, qui va être un vrai problème, si j'ose dire, international. Alors voici ces trois États face à eux. Bah, ce qu'il y a, c'est un ensemble ensuite d'États soumis, d'États vassaux de l'Autriche. Ce sont les duchés ou les principautés d'Italie centrale.
Parme, Modène.
Parme, Modène, exactement. Et puis le Grand-Duché de Toscane. Et enfin, il y a de vrais États annexés, occupés par l'étranger. C'est la Lombardie et la Vénétie que j'évoquais précédemment. Alors le problème qui se pose très clairement, si on veut faire l'unité, c'est de savoir par où l'on commence et quel est l'État parmi les trois États indépendants qui peut être le vecteur de l'unité, mais territoriale et politique et militaire. L'État qui devient le vecteur de l'unité, c'est l'État le plus septentrional, c'est-à-dire le royaume de Piémont-Sardaigne, la monarchie de Savoie, qui devient véritablement l'État qui peut, grâce à son gouvernement libéral et modéré après 1848, garantir deux choses à l'Europe et à l'Italie. La première chose, garantir que l'on peut faire l'unification de la péninsule sans tomber dans la révolution. Et c'est ce qui doit rassurer les puissances internationales.
D'où le rôle de Cavour pour ça.
D'où le rôle de Cavour. Je dirais que c'est le rôle essentiel de Cavour depuis les années 1850 et notamment depuis le congrès de Paris de 1856 que de rassurer les puissances internationales, les puissances européennes en leur montrant qu'il ne faut pas laisser la péninsule dans son état, qu'il faut aider la péninsule à s'unifier et en même temps à devenir indépendante contre l'Autriche, mais que pour cela, il faut aider, donc, comme je le disais, comme nous le disions précédemment, il faut aider la puissance la plus libérale, mais la plus modérée de la péninsule, c'est-à-dire la puissance piémontaise, qui peut faire l'unité sans faire la révolution. Et c'est ce que veulent entendre les Européens. Cela me conduit, enfin, à dire que ce Risorgimento et cet éveil national, c'est certes un éveil intellectuel et culturel des élites, comme je l'ai dit, c'est aussi un vaste mouvement de mobilisation politique qui deviendra un mouvement de mobilisation politique populaire, mais c'est enfin et surtout, et il ne faudrait pas l'oublier, un grand mouvement international, une affaire européenne, à la fois de diplomatie, mais aussi d'équilibre, de nouvel équilibre géopolitique. Sans le concert, sans le support, le secours ou l'intérêt de la France et de l'Angleterre et du Royaume-Uni, même si les Britanniques et les Français n'étaient pas convaincus qu'il faille tout de suite faciliter le processus d'unification nationale. Mais sans le concours de ces puissances européennes, sans du reste l'indifférence même de la Russie, qui jusqu'alors était l'alliée des Bourbons de Naples, sans tout cela, sans ce processus d'européanisation des affaires italiennes, l'Italie n'aurait pas été faite.
Pouvez-vous nous rappeler les étapes, la chronologie de cette unification grâce au Risorgimento ?
Oui, la chronologie militaire et politique de l'unification, elle se résume très simplement à trois guerres et deux expéditions. Les trois guerres, c'est celle de 1848-49, que l'on appelle en italien la première guerre d'indépendance, à l'issue de laquelle le Piémont avait donc déclaré la guerre à l'Autriche, mais à l'issue de laquelle le Piémont n'obtient aucun gain territorial. Donc un échec complet, mais une guerre qui a bien montré, révélé à la péninsule et à l'Europe, que le prince de Piémont, que les Piémontais, étaient prêts à prendre en main le sort de la péninsule. La deuxième guerre, c'est la guerre de 1859. Les Italiens l'appellent tout à fait logiquement la deuxième guerre d'indépendance, c'est Seconda Guerra d'Indipendenza, et les Français l'appellent guerre d'Italie. Pourquoi les Français l'appellent-ils guerre d'Italie ? Eh bien parce que nous savons fort bien, et c'est au cœur du reste de cette exposition des Invalides que vous évoquiez opportunément au début de l'émission, parce que tout simplement, en 1859, la guerre n'a pas été faite par les seuls Piémontais, mais elle a été faite par les Français et les Piémontais contre l'Autriche. Cette guerre se conclut par l'annexion ou la récupération plutôt de la Lombardie autrichienne qui devient italienne. Et cette guerre est suivie d'une expédition. C'est la première des deux expéditions que je voulais évoquer, l'expédition dite de Sicile, des Garibaldiens, qui en dehors d'un contexte de guerre régulière et formellement déclarée, comme la Seconde Guerre d'Indépendance, vont libérer, comme on disait alors, le sud de l'Italie, pour que le sud de l'Italie devienne à son tour italien.
C'est l'expédition des de Garibaldi, les 1000.
C'est tout à fait cela, c'est l'expédition des 1000 et des 1000 chemises rouges de Garibaldi, pour être tout à fait exact, qui a nourri toute une épopée littéraire française, d'Alexandre Dumas à Victor Hugo, en passant par Maxime Ducamp, dont un certain nombre du reste des clichés et des archives sont, si mes souvenirs sont bons, à la bibliothèque de l'Institut de France. La troisième guerre que je voulais évoquer, c'est celle que l'on appelle la troisième guerre d'indépendance, celle de 1866. À l'issue de cette troisième guerre d'indépendance, l'État italien a récupéré désormais la Vénétie. Donc, nous sommes face à un État qui a réalisé la quasi-intégrité territoriale. Je veux dire par là que le royaume italien en 1866 possède toutes les régions de la péninsule, sauf Rome. Et ce sera l'objet de la dernière expédition que je voulais évoquer, qui est l'expédition de Rome de septembre 1870, à l'issue de laquelle Rome est conquise ou libérée, comme l'on veut, par les Piémontais et les Italiens. Et dès lors, en 1870, on peut dire qu'il y a étroite coïncidence entre la péninsule géographique et le nouvel État italien.
Quand vous dites l'Italie a récupéré des territoires, il faut bien savoir qu'à chaque fois, après plébiscite.
Alors, en effet, soyons précis, vous avez raison. Le processus est toujours le même. La mécanique est toujours la même et elle donne d'ailleurs au Risorgimento sa spécificité. Il y a, comme je le disais, un mouvement de mobilisation populaire. Il y a, comme je l'ajoutais, une expédition militaire, guerre ou expédition de reconquête d'un territoire. Et ensuite, tout cela est sanctionné par les urnes, par le suffrage universel masculin. Je prends un seul exemple, l'expédition des 1000 de Garibaldi que vous évoquiez précédemment. Ce sont des volontaires et des garibaldiens qui ont décidé d'aller libérer la Sicile et le royaume des deux Siciles sous le joug des Bourbons. Au début, il n'y avait pas de guerre réellement déclarée et les Piémontais n'étaient pas immédiatement favorables à cette expédition qui paraissait révolutionnaire. L'expédition ensuite a été canalisée, est devenue beaucoup plus modérée. L'expédition a été suivie par l'installation d'un gouvernement provisoire. À l'issue de ce gouvernement provisoire, on a organisé un plébiscite, c'est-à-dire un référendum au suffrage universel masculin. Et le référendum s'est prononcé pour le rattachement au Piémont d'abord, puis au nouveau royaume d'Italie, de cette province. Cela s'est fait comme ça dans toutes les régions d'Italie qui ont été d'abord libérées ou reconquises, puis ensuite ajoutées au royaume de Piémont dans un premier temps, puis au royaume d'Italie nouvellement proclamé dans un second temps.
Donc les opinions qui présentaient le Piémont comme étant un petit peu hégémonique,
oui,
ne sont pas tout à fait confortées, puisqu'il y a eu à chaque fois un plébiscite.
Oui, il y a eu à chaque fois un référendum, un plébiscite. D'ailleurs, il est intéressant qu'on utilise ce mot de plébiscite parce que, comme nous savons, en France, le mot de plébiscite a mauvaise presse.
Oui, on pense à autre chose.
Voilà, surtout à la même époque.
Oui, avec Napoléon III.
Avec les plébiscites napoléoniens. En Italie, le mot de plébiscite est positif ou neutre, ce qui fait qu'encore de nos jours, dans toutes les grandes villes italiennes, dans tous les chefs-lieux de province, il y a une rue du plébiscite, Via del Plebiscito, parce que cette rue du plébiscite, comme à Rome d'ailleurs, où c'est une rue très importante, est là pour rappeler la consultation au suffrage universel masculin qui sanctionna, après le sort des armes, le processus de rattachement et de nationalisation. Donc, la grande différence qu'il y a entre, si je suis schématique, vous me pardonnerez, entre l'unité italienne et l'unité allemande, c'est que même si dans les deux cas, les armes ont parlé, dans le cas italien, on consulte les populations. Alors évidemment, on a dit que cette consultation des populations était en grande partie fictive, parce que les populations étaient analphabètes et votaient la plupart du temps comme les notables. Certes, mais ça, ça veut dire d'une part que les notables votent pour le nouvel État, ce qui est déjà un signe très important.
Oui, parce que, certains notables avaient tout à perdre.
C'est cela, certains notables avaient tout à perdre. Et puis ça veut dire aussi autre chose, c'est-à-dire que dans un grand nombre de cas, notamment dans le cas des États de l'Église que vous évoquiez comme une entrave, et c'est vrai, dans ces cas, le clergé, pas toujours, mais en grande partie, le clergé, notamment le haut clergé, demandaient de voter contre le rattachement. Les populations qui votaient pour le rattachement, elles étaient peut-être fidèles aux notables libéraux et donc pas assez affranchies, mais en tout cas, elles marquaient par là même leur affranchissement de la tutelle du clergé. Donc, moi je crois qu'il faut revisiter, comme on a l'habitude de dire, il faut revisiter vraiment cette idée d'un plébiscite d'artifice, d'un référendum d'artifice. Vous savez, quand on voit que les gens votent à 90% pour quelque chose, on émet toujours des doutes, c'est vrai. Mais on voit aussi qu'il y a des variations, qu'il y a des endroits où on a essayé de voter un peu moins unanimement, bref. Et donc, ce que l'on peut juger aussi, c'est, et c'est plus important, je crois, c'est de la capacité de mobilisation déployée par les élites ou les classes moyennes à cette époque. Et indéniablement, l'unification italienne est le résultat politique d'un vrai ralliement des classes moyennes et des élites à la solution unitaire et piémontaise.
Avant que nous parlions des relations françaises et France et Italie, nous allons faire une petite pause avec Vapensière, Verdi et Nabucco. Et je crois là aussi que vous avez envie de revisiter la présentation de cet hymne national qui sert à plusieurs opinions.
Oui, volontiers, si vous m'y autorisez. Donc volontiers parce que, pour être très schématique, Vapensière, donc extrait du Nabucco de Verdi, appartient donc, théoriquement et historiquement, à tout le répertoire patriotique, même si l'on a beaucoup nuancé l'engagement patriotique de Verdi, mais enfin, à tout le répertoire patriotique et national de Verdi. Au XIXe siècle, on sait bien, à la fin des années 1850, à partir de 1857 pour être précis, les initiales de Verdi, on le sait suffisamment, servent à marquer son engagement politique pour la cause unitaire, parce que Verdi, cela veut dire Victor Emmanuel, roi d'Italie, donc écrire Verdi sur les murs, cela signifiait « je suis favorable à la solution piémontaise d'unification territoriale de l'Italie ». Bref, Verdi, patriote. Et que se passe-t-il de nos jours? Eh bien, on s'aperçoit que le cœur de Nabucco, va pensiero, sert d'hymne, mais il ne sert plus du tout d'hymne pour louer, pour aller dans le sens des valeurs de la nation progressiste et libérale issue du Risorgimento, comme avec Verdi. Il sert de bannière, cet hymne, à tout un mouvement anti-italien, anti-national, sécessionniste, démagogique, réactionnaire et conservateur. Je veux parler du mouvement que l'on appelle le mouvement des Ligues, de la Lega Nord, parce que tout simplement, le sénateur et président de la Ligue, ministre, l'ex-ministre plutôt, Umberto Bossi, qui dirige la Ligue Nord, avait décidé qu'il fallait imposer le va pensiero de Verdi contre l'hymne national italien officiel, qui est l'hymne Frères d'Italie, Fratelli d'Italia. Alors, pourquoi a-t-on choisi va pensiero de Verdi? Pas du tout pour des raisons de contenu, simplement parce que les gens de la Ligue ont choisi l'un des morceaux les plus populaires de l'opéra verdien et se sont dit que ce morceau très populaire, qui était le morceau d'un cœur d'esclaves asservi, pouvait, comme cela, signifier le mouvement de libération, non plus des Italiens, mais des gens du Nord contre les gens du Sud. Vous voyez donc, cela paraît un peu complexe, mais le résultat est très simple, c'est que dans tout le nord de l'Italie, dans toutes les villes et les régions qui sont sous administration de ce mouvement, de ce parti que l'on appelle la Ligue, eh bien, les autorités officielles, les maires, les quelques présidents de province ou de région refusent très souvent, ce qui est impensable en France, mais refusent très souvent de jouer l'hymne national italien, qui s'appelle Fratelli d'Italia, l'hymne de Mameli, et préfèrent jouer cet hymne, l'hymne de Verdi, qui est certes un très beau morceau, mais qu'ils utilisent à des fins sécessionnistes et antinationales. Et même lorsque le président de la République italienne se déplace dans ces régions-là, certes, on joue l'hymne national italien parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais la plupart du temps, les élus et les responsables de la Ligue ne le chantent pas ou de façon ostentatoire refusent d'y participer. En revanche, on inflige au président de la République italienne le cœur de Verdi. Je ne devrais pas dire qu'on l'inflige, parce que c'est un très beau morceau, mais on en inflige le sens politique subversif.
On avait bien compris. Écoutons ce très beau morceau. En ce qui concerne les relations franco-italiennes, elles ont évidemment, nous l'avions évoqué tout à l'heure, commencé depuis toujours, surtout au moment de la conquête d'Italie par Bonaparte, mais elles se sont cristallisées aussi à l'époque de Napoléon III, qui était un carbonaro. Dites-nous rapidement ce que c'est qu'un carbonaro. Pourquoi est-ce qu'on est si sûr qu'il était italophile, comme tous les Bonaparte,
d'ailleurs. On n'est pas si sûr que cela qu'il ait été carbonaro, mais lié avec son frère, en tout cas, au mouvement des carbonari, oui, que son frère l'ait été. Les carbonari, ou le carbonaro, ou les carbonari, c'est la traduction en italien de ce que l'on appelle la charbonnerie en France. Donc, c'est une société secrète et clandestine qui poursuit depuis le Premier Empire et surtout au début de l'époque romantique, des années 1820, des buts patriotiques et libéraux. C'est-à-dire que dans la clandestinité, on œuvre pour un réveil libéral et patriotique et national. Alors évidemment, en Italie, être carbonaro, ça signifie lutter pour la libération de l'Italie et pour l'instauration du libéralisme constitutionnel dans la plupart des États d'Ancien Régime. Les relations entre la France et l'Italie, à mon sens, dépassent malgré tout la jeunesse et la personne de Napoléon III, même si vraiment, c'est extrêmement important. Les relations entre la France et l'Italie, autour de l'unité italienne, elles se résument peut-être à, d'abord, évidemment, d'intenses, sinueuses relations diplomatiques. c'est difficile de saisir ce qu'est le cours de la diplomatie.
Parfois incompréhensible.
Incompréhensible, je pourrais y revenir tout à l'heure, à partir notamment du début du Second Empire, hein, à partir du début des années 1850, hein, de 1851-1852. Donc ça, c'est l'aspect diplomatique sur lequel nous pourrons revenir. Et puis, ça ne s'arrête pas à cela. Les relations entre la France et l'Italie, c'est aussi un immense mouvement de médiatisation des affaires italiennes en France. À cette époque, dans les années 50, 1850, et au début des années 1860, tout le monde s'intéresse à l'Italie en France. Les affaires italiennes sont les affaires européennes les plus présentes dans la presse et l'opinion française, même dans les campagnes.
C'est peut-être aussi, vous aviez dit dans votre livre, les campagnes de l'Ouest, en
oui.
liaison avec le pape.
Mais bien sûr, permettez en même temps d'évoquer un aspect très important, c'est que s'intéresser à l'Italie ou assister à la médiatisation de l'Italie, cela ne signifie pas aller tous dans le même sens.
Non, parce qu'il y a des opinions qui divergent entre les libéraux, les progressistes
voilà.
et les aristocrates catholiques.
Et les catholiques ultra-légitimistes. L'opinion française est divisée autour de l'Italie. Elle est divisée du reste depuis la Seconde République, en réalité, hein, depuis les affaires de Rome de 1849.
D'Oudino.
Voilà, elle est divisée entre ceux qui considèrent qu'il faut aider les Italiens à réaliser leur unité et à chasser les Autrichiens, et que ce faisant, il faut accepter, même favoriser, la lutte contre le pouvoir temporel du pape. La lutte contre le pouvoir temporel du pape, cela signifie que pour que l'unité se fasse, il faut que le Saint-Père, le pape, renonce à ses états en tant que chef d'État, tout en continuant à être un chef spirituel. Alors ça, vous pouvez bien songer que cela n'est pas du goût de toute une partie de l'opinion catholique la plus ultra, notamment, et conservatrice. Donc pour ces gens-là, même si au début certains n'étaient pas hostiles à une indépendance de l'Italie, très vite, le dénominateur commun lutte contre les Italiens qui veulent chasser le pape de son trône de souverain temporel. Et dans les campagnes de l'Ouest, ils sont très nombreux.
Alors, donc, on l'a bien compris, le règne de Napoléon III est un véritable moment italien avec ses contradictions,
oui.
ses tensions, sa
oui.
médiatisation. Mais finalement, cet empereur très proche par le cœur de
oui.
l'Italie, pourquoi choisit-il le parti de l'ordre avec la restauration du pape alors que Garibaldi et
oui.
Mazzini
oui.
étaient ses amis ?
Oui, bien sûr, il choisit, je ne vais pas me lancer dans une défense de la diplomatie de Napoléon III, mais bien sûr, il choisit le parti de l'ordre en apparence, mais en même temps, Napoléon III et son entourage maintiennent une politique de double langage qui se fait toujours à l'avantage de l'unité italienne et des libéraux modérés piémontais, bref, de Cavour et de Victor Emmanuel. La seule chose, c'est que Napoléon III ne veut pas de solution brutale contre le pape pour une simple raison de politique intérieure, c'est que l'opinion catholique compte énormément pour l'assise légitime de son pouvoir, même si c'est un pouvoir qui semble de plus en plus absolu. Mais nous savons aussi que le Second Empire n'est pas un régime monolithique, qu'il a des évolutions politiques.
Bien sûr, il va devenir libéral
voilà,
à partir de...
Et donc cela compte énormément. J'ajoute un dernier élément. Pourquoi Napoléon III favorise-t-il aussi réellement le sort de l'unité italienne, tout en ayant ensuite un certain retrait ? Parce qu'au début, ce que veut Napoléon III en favorisant le sort de l'unité italienne, c'est malgré tout conserver un certain nombre d'atouts géopolitiques dans la péninsule. Il veut bien l'indépendance de l'Italie, mais il veut au début, après Plombières, un État fédéral ou fédéraliste dans lequel, par exemple, la Toscane, l'ancien grand-duché de Toscane, serait sous la tutelle d'un prince Napoléon ou éventuellement d'un prince piémontais sous sa propre tutelle. Donc, les choses ne sont pas aussi simples que cela. Il y a premier niveau, certes, une ligne continue qui favorise le dessein de l'unité et de l'indépendance de l'Italie. Deuxième niveau, le souci, malgré tout, de conserver un certain nombre d'intérêts dans la péninsule. Et puis troisième niveau, au moment où il s'aperçoit que malgré tout, il ne peut pas conserver tous les intérêts géopolitiques et territoriaux qu'il souhaitait, il se rend quand même à l'évidence et favorise le processus unitaire italien, mais en le favorisant de façon gradualiste et en essayant de faire en sorte que pour les apparences de la diplomatie comme de la politique, il n'ait pas trop heurté les intérêts du Saint-Père, du pape.
Parce que c'était un habile diplomate.
C'était un habile diplomate.
Nous avons parlé de l'unité de l'Italie. On va juste terminer en parlant de l'unité de la France, puisqu'en 1860, on a eu Nice et la Savoie. La Savoie, oui, c'est le berceau de la dynastie du Piémont, et oui, Nice, c'est la ville d'origine de Garibaldi.
Oui.
Alors, quelle transaction?
Non, là, vous avez raison. C'est d'ailleurs un élément qui est très présent dans l'exposition des Invalides que vous avez cité au début et dans le catalogue que nous en avons tiré, de même que dans un certain nombre d'initiatives qui ont été faites par les collègues de Savoie autour de l'anniversaire du rattachement de la Savoie. Ces éléments sont les suivants. Il y a indéniablement du côté des Italiens, des Piémontais et notamment de Cavour, une très sage appréhension ou approche des intérêts de l'Italie. Je veux dire par là que Cavour sait très bien qu'il faut céder la Savoie et Nice à la France pour pouvoir satisfaire Napoléon III aux yeux de sa propre opinion et pour pouvoir obtenir en retour le blanc-seing ou le soutien de la France face à l'Autriche, certes, ou contre l'Autriche, certes, lorsque c'était décidé à Plombières, parce que tout cela est décidé en 1858, mais aussi, et on l'oublie parfois, céder la Savoie et Nice, c'est une façon pour Cavour d'obtenir les mains libres dans les autres États d'Italie centrale, en Toscane et surtout en Émilie-Romagne, dans les États du Pape. Si la France, si les Français, pour dire les choses très simplement, ne réagissent pas ou n'entendent pas réagir au-delà des protestations diplomatiques de bon aloi, mais sans envoyer de troupes, lorsque les Piémontais pénètrent dans les États pontificaux pour les annexer, eh bien c'est parce qu'entre-temps, ils ont obtenu la Savoie et Nice. Et vous avez raison, c'est une épreuve pour les Italiens, notamment pour les Piémontais, que de céder le berceau de la dynastie des Savoies ou de céder Nice. Eh bien cela vous prouve, une fois de plus, qu'un homme politique comme Cavour ne faisait pas passer les intérêts du Piémont avant ceux de l'Italie, mais ceux de l'Italie avant ceux du Piémont.
Ça sera le mot de la fin, car c'est un mot qui est important pour tous ceux qui avaient une autre vision de cette chose-là. Je vous remercie beaucoup, Gilles Pécou.
C'est moi.